Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Guillaume Ménard, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Léa Sabourin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée à la monnaie. Hier, nous avons vu que le passage du troc à la monnaie était un récit soigneusement élaboré qui a accompagné l'invention de l'économie politique comme discipline. Demain, nous examinerons la menace d'une guerre des devises avant de nous pencher jeudi sur le projet politique des crypto-monnaies. Mais d'abord, c'est la disparition des espèces qui va nous intéresser. La Suède fait figure d'avant-garde en la matière. L'argent liquide ne représente plus que 1% du PIB du pays contre 10% en Europe. Et dans la plupart des sociétés, la part du cash dans l'économie ne cesse de reculer, suscitant de nombreuses interrogations. La disparition du liquide, si elle advient un jour, permettra-t-elle vraiment de lutter contre l'exil fiscal et le blanchiment d'argent, comme l'avancent ses défenseurs? Ne risque-t-elle pas, au contraire, de créer une économie à deux vitesses? Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture, et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de la disparition des espèces, nous accueillons aujourd'hui Ludovic Desmet, professeur d'économie à l'Université de Bourgogne, co-auteur avec Jérôme Blanc de cet ouvrage « Les pensées monétaires dans l'histoire » paru aux éditions Garnier. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
La dématérialisation de l'argent, c'est pas quelque chose de récent. Et on peut à la fois dire que les Français restent attachés à l'argent liquide, mais aussi voir que la France, c'est un des pays qui a été dans les premiers à utiliser les cartes bancaires. La technologie bancaire française est très ancienne et très en pointe. Et les banques françaises, dans les années 60, ont mis au point ces outils-là. Et les Français, par rapport aux Allemands, par exemple, pour les paiements importants, ont beaucoup utilisé le chèque et utilisent maintenant la carte, mais donc l'argent dématérialisé, il est complètement naturel.
Bonjour Ludovic Desmet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre la sociologue Jeanne Lazarus, qui est spécialiste des pratiques bancaires. Est-ce que la dématérialisation de l'argent, c'est un processus ancien, comme elle nous le dit, un processus qui nous semble aujourd'hui en fait tout à fait banal, Ludovic Desmet?
Oui, c'est vrai que quotidiennement, on a affaire à de multiples canaux de paiement. On peut acheter son journal soit avec des espèces sonnantes et trébuchantes, des billets, une carte de crédit sans contact, etc., etc. Mais il y a une volonté depuis des siècles d'alléger un peu la structure du système de paiement en ayant des outils multiples, d'ailleurs pas forcément concurrents. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais on peut voir ça en termes de complémentarité. C'est une technologie, les paiements. Et donc, avec pour réussir à accomplir des actes d'achat et de vente, on va passer par tout un ensemble d'outils qui vont aller des pièces métalliques qui remontent à la plus haute antiquité, ensuite aux billets de banque ou billets d'État, alors qu'il y a une naissance différente selon qu'on regarde du côté de l'Asie ou du côté de l'Europe. Et puis, comme le disait Jeanne Lazarus, plus récemment, on a eu une accélération des mouvements d'argent grâce à l'électronique, au virement bancaire via l'informatique, et puis aujourd'hui avec les cartes, les smartphones, etc., etc.
L'idée, c'est d'aller vers toujours plus d'efficacité, de rapidité.
Oui, il y a ce mouvement-là, mais on a un empilement, je pense, des structures et des logiques de paiement, et on ne va pas du tout payer les mêmes prestations avec une carte à puce qu'avec un chèque, qu'avec un ordre de virement, etc., etc. Donc, on a effectivement une volonté d'allègement en quelque sorte des pièces qui pouvaient paraître encombrantes au XIVe, etc., au XVe siècle. Les Suédois, vous l'avez cité dans l'introduction, les Suédois sont aujourd'hui en train de passer à la vitesse supérieure. Mais il faut savoir que la Suède est passé au XVIIe siècle au billet de banque parce que les pièces à l'époque en Suède étaient frappées en cuivre, puisque la Suède a des gisements de cuivre, et donc il n'y avait pas d'or, pas d'argent, on faisait des pièces en cuivre. Mais pour les gros montants, on avait des pièces qui faisaient jusqu'à 20 kilos. Donc on peut se dire que logiquement, les Suédois ont été très intéressés pour alléger un peu cette structure et passer au billet de banque du fait du poids trop élevé de certaines de leurs espèces.
Donc l'avance de la Suède aujourd'hui en matière de dématérialisation de la monnaie s'explique historiquement, et c'est peut-être aussi le cas de la Chine.
Oui, on a alors assez étrangement, on a aujourd'hui en pointe dans les banques centrales qui poussent en quelque sorte les populations à passer au paiement électronique à 100% avec la disparition du cash et du liquide. On a les deux banques centrales, ou en tout cas les deux pays qui ont été à la pointe de l'innovation au Moyen-Âge, la Chine qui invente entre guillemets le papier monnaie au XIIe, XIIIe siècle. D'ailleurs, ce qui avait fasciné Marco Polo quand il est allé en Chine, parce qu'il se trouve qu'il arrive en Chine à ce moment-là.
Papier monnaie qui est une sorte de chèque.
Qui est en fait une reconnaissance de dette et qui est imprimée, puisque les Chinois ont inventé l'imprimerie. Et donc, l'Italien Marco Polo est fasciné par cette technique-là qui n'existe pas en Europe. Il va en parler dans son devisement du monde, mais l'Europe n'y passera que beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, la Chine va revenir en arrière, puisqu'au XIVe siècle, il y aura une hyperinflation de papier-monnaie, et on va revenir au paiement en espèces. C'est-à-dire que on est dans des phases d'expérimentation. Et aujourd'hui, comme hier, on peut essayer de passer à un moyen moins lourd et moins encombrant que précédemment, mais on peut aussi revenir en arrière. En France, au XVIIIe siècle, c'est pareil, John Law, l'Écossais, va essayer de faire passer la France au papier-monnaie en 1720, et ça va provoquer un échec.
Donc il ne faut pas voir ce processus depuis la monnaie physique jusqu'à la monnaie scripturale, puis ensuite la monnaie numérique, comme un processus linéaire, finalement, c'est ce que vous voulez dire ?
Oui, il me semble qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité absolue dans ces domaines-là. Il y a des expérimentations qui prennent ou qui ne prennent pas dans les populations. Parce qu'encore une fois, ce qui est au centre du problème, au-delà de la volonté des autorités monétaires ou même des systèmes bancaires, c'est les paiements quotidiens, c'est le comportement des usagers. Et en voulant parfois forcer le passage vers une monnaie peut-être plus facile à gérer pour les intermédiaires financiers, on brusque et on braque en fait les usagers, hein, la population, hein, tout bêtement. Hein. Bon, ça a été un peu le cas, mais on peut pas passer en revue tous les échecs de l'histoire monétaire, mais en France, lors de la Révolution française, avec les assignats, c'est pareil. Les assignats n'ont pas pris, alors que on menaçait de peine de mort ceux qui n'utilisaient pas les assignats, la monnaie des révolutionnaires, mais ça a provoqué un rejet massif et donc un échec.
Et plus récemment, c'est l'Équateur qui a voulu expérimenter en 2014, je crois, une monnaie nationale électronique, et ça n'a pas du tout marché, alors que du côté de la Chine, en revanche, ça a plutôt bien pris, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est 73% de la population chinoise qui utilise le paiement par mobile.
Alors après, il faut regarder un peu les configurations politiques. Alors en Suède, bon, la population a l'air, même s'il y a un mouvement de résistance à ce passage au tout numérique, mais la population a l'air plutôt encline et plutôt technophile. Et de toute façon, il y a aussi des contraintes géographiques qui font que c'est aussi difficile en Suède d'approvisionner certains îlots ou certaines régions éloignées en cash. Et donc, il est aussi intéressant de passer au numérique. En Chine, c'est un peu différent, parce que là, c'est l'État qui vise à surveiller l'ensemble de la population. Hein. On a des moyens de surveillance dans les rues et de fichage complet. Et là, c'est plutôt une vision top-down, c'est-à-dire que c'est plutôt la hiérarchie politique et économique qui voudrait que l'ensemble de la population chinoise passe au tout numérique, même si les 200 millions et quelques de ruraux qui sont très peu bancarisés vont avoir du mal à faire ce saut-là.
Et alors, comment expliquer cet échec en Équateur ?
Alors, en Équateur, oui, pour revenir à cette question-là, encore une fois, c'était une volonté qui a été impulsée par la Banque centrale. Alors, on a des pays d'Amérique du Sud en particulier qui ont des problèmes récurrents d'hyperinflation. Et souvent, les instituts d'émission essayent de passer à une monnaie qui serait plus commodément gérables, qui seraient les monnaies numériques. Donc l'Équateur a essayé de passer à ce problème-là. L'Équateur étant dollarisé, c'est-à-dire qu'il n'a plus de monnaie nationale, souveraine. Mais, encore une fois, il y a eu une résistance de la population qui s'est bien accommodée au dollar américain équatorien, parce que les pièces ont une face équatorienne, mais n'a pas du tout suivi cette monnaie numérique, qui était vue comme une espèce d'imposition par les autorités d'un système qu'on comprenait mal. D'ailleurs, il y a la même tentative au Venezuela aujourd'hui, qui est aussi soumise à l'hyperinflation et qui a essayé de passer à une monnaie numérique basée sur le cours du pétrole, mais qui ne semble pas prendre non plus.
Ce que l'on comprend bien dans ce que vous dites, Ludovic Desmet, c'est que finalement, cela dépend en grande partie du rapport à l'État, et vous avancez notamment cette hypothèse, dans les sociétés démocratiques, l'acceptation de la disparition des espèces dépendrait du degré de consentement à l'impôt.
Dans les sociétés libres, oui, j'ai l'impression que, à mon avis, ce n'est pas seulement un hasard que les pays d'Europe du Nord, dans ou hors de la zone euro d'ailleurs, hein, parce qu'on a les petits pays baltes, mais aussi la Suède, la Norvège qui essayent de passer à ce mouvement-là, c'est là aussi qu'on a les taux d'imposition les plus élevés. Et donc il y a une espèce de transparence généralisée. Bon, alors c'est pas comparable, je pense, avec des pays beaucoup plus importants comme l'Allemagne et la France, ou plus méditerranéens, disons. Mais on a une espèce d'acceptation sur le fait que l'État serait en mesure de pister, en quelque sorte, les paiements de chacun.
Je persiste à croire que nous ne devons pas laisser la politique monétaire à la merci des décisions arbitraires des gouvernements. On a tenté d'utiliser la politique monétaire pour assurer la stabilité du plein emploi. Ce fut un échec complet. Et cela ne peut être qu'un échec, car je suis arrivé à la conclusion que le contrôle de l'argent doit être retiré au gouvernement. Pendant longtemps, je n'ai pas défendu cette idée très activement, car il est tout à fait utopique de croire que les gouvernements pourraient renoncer à leur monopole sur l'émission de monnaie, et par conséquent, il est vain de poursuivre cette idée. Mais je suis aujourd'hui arrivé à de nouvelles conclusions qui me donnent beaucoup plus d'espoir. Dans le monde moderne, l'argent n'a pas vraiment besoin d'exister sous une quelconque forme de pièce métallique ou de monnaie papier actuellement en circulation. Vous pouvez commencer par des comptes de crédit sur lesquels vous pouvez tirer des chèques, qui obligent seulement l'émetteur à amortir l'unité que nous appellerons solide. Tant de monnaie courante est déjà requise pour acheter un certain nombre de matières premières. Cela peut être fait sans avoir à émettre d'argent nouveau, et personne, ni aucun gouvernement, ne peut empêcher les entreprises privées d'émettre de tels comptes de crédit.
Voilà, on entendait un extrait d'un entretien avec l'économiste Friedrich Hayek, qui a été réalisé en 1985 à Fribourg, en Suisse. Hayek qui promeut ici la fin de la monnaie physique, parce qu'elle est trop liée à l'État, elle est considérée comme trop politique.
Alors, oui, puisqu'on parle de la dématérialisation, il y a en ce moment, le cash vit une mauvaise période, parce qu'on a on a beaucoup de courants plus ou moins intéressés économiquement ou en tout cas politiquement, qui sont sur sa peau et qui veulent en quelque sorte une extinction des espèces. Donc une de ces écoles, on pourra parler des autres après, ce sont les libertariens, ou en tout cas les libéraux extrêmes type Hayek, qui effectivement au cours des années 70 commencent à imaginer un système beaucoup plus concurrentiel que précédemment sur la création monétaire, et qui serait le fait de banques privées qui émettraient des monnaies concurrentes, pour en quelque sorte déloger l'État de son dernier bastion, qui est la souveraineté monétaire, hein, qui fait partie quand même des... même si on est passé à une privatisation de services publics depuis longtemps, tels que l'éducation, la santé, etc., etc., la monnaie, est généralement, jusque dans les années 70, était considérée comme faisant naturellement partie du périmètre étatique. Et Hayek commence à déboulonner cette idole, en quelque sorte, dans les années 70, en disant, finalement, pourquoi est-ce qu'on n'émettrait pas des monnaies concurrentes, hein, et comme ça permettrait de passer à un monde beaucoup plus efficace, efficient, avec des monnaies qui seraient non inflationnistes, supposément.
C'est ce qui explique aujourd'hui, selon vous, qu'il y a de plus en plus de voix que l'on peut entendre, justement, en faveur de cette société sans cash. C'est l'influence de cette théorie néolibérale.
Alors, il y a beaucoup de convergences, en fait, dans ce domaine-là. Il y a aussi les technophiles, les geeks, hein, qui sont adeptes du tout numérique. On a certaines banques centrales, on l'a dit, telles que la Banque de Chine, mais on a surtout, je pense, les géants du numérique, hein, les Amazon, Google, ou même les firmes de téléphones portables, etc., qui sont très
intéressés. Qui voient tout l'intérêt économique qu'ils peuvent y trouver.
Bien sûr, parce que en fait, on vit une époque formidable, comme aurait dit Reiser, mais on a On a depuis les années 70, depuis en gros, si on veut une date, depuis 71 avec la fin de la convertibilité en or du dollar et puis l'expansion des monnaies bancaires sans ancrage, c'est-à-dire sans limite, on a le terrain monétaire devenu extrêmement compétitif. Et aujourd'hui, on vit depuis les années 2000-2010 l'ouverture encore plus large à ces nouvelles firmes de la Silicon Valley, pour aller vite, hein, qui verraient avec beaucoup d'intérêt ce dernier monopole étatique tomber dans leur escarcelle.
Mmh, ce qu'on appelle les fintechs.
Voilà.
Et alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un lobbying des banques, des sociétés de services de paiement, des fintechs en faveur du zéro cash ?
Oui, c'est certain que de ce côté-là, ça pousse beaucoup, parce qu'il y a énormément de marge à se faire, il y a des rentes, hein, on est dans un territoire quasiment vierge, hein, c'est-à-dire qui a été verrouillé pendant très longtemps, de manière hiérarchique, par les banques centrales et par les banques commerciales, et il fallait tout un tas de protocoles pour s'installer en tant que banque commerciale. Ça se fait pas aussi facilement que ça pour avoir l'autorisation de l'autorité des marchés financiers en France et d'autres institutions de ce genre-là. Et aujourd'hui, on a un nouvel Eldorado qui pourrait s'ouvrir, hein, Samsung, Apple, Google, qui pourrait profiter de ces rentes qui sont quand même non négligeables et qui permettraient en plus de compléter leur panoplie sur la connaissance de vos achats, de mes achats, des sites vers lesquels on va, et leur permettrait de cartographier totalement la population qui aurait affaire à leur service.
Alors, il y a beaucoup d'arguments en faveur de cette société sans cash. On va les examiner l'un après l'autre. Et notamment, l'un de ces arguments, c'est que le zéro cash favoriserait la consommation. C'est par exemple ce qu'on a constaté dans les restaurants McDonald's. Les commandes seraient 30% supérieures lorsqu'elles sont prises sur les bornes interactives. C'est un argument qu'on peut entendre souvent, Ludovic Desmet.
Oui, je pense que les sociologues se sont pas mal penchés là-dessus. Quand on a un budget limité et qu'on sait que on est limité à 100 euros et que ces 100 euros apparaissent dans votre portefeuille, vous n'allez pas le dépasser. C'est-à-dire que un des avantages du cash, à mon avis, c'est de connaître sa position par rapport à la société, et on va voir diminuer jusqu'à zéro. On a une espèce de compte à rebours dans le portefeuille. Mmh. Quand vous avez un paiement dématérialisé, vous n'avez plus de plafond. Vous avez déplafonné, comme l'or n'a plus été l'ancrage de la monnaie fiduciaire depuis les années 30 pour la plupart des monnaies, depuis les années 70 pour le dollar. Là, vous déplafonnez. Et donc, vous facilitez l'endettement, pour aller vite. Hein. Si chez McDo, on consomme plus, ça veut dire que dans l'ensemble des échoffes, y compris sur Internet, vous allez consommer plus. Et vous allez virtuellement, si vous n'avez pas les capacités d'épargne suffisantes ou le pouvoir d'achat suffisant, vous allez vous surendetter.
Mmh, oui, je disais avantage, ça dépend de quel côté on se situe. Avantage, parce que ça favorise la consommation, mais inconvénient si on considère que ça favorise l'endettement, voire le surendettement. Et alors, il y a un argument qui est important, qui est souvent avancé par les partisans d'une société sans cash, c'est le coût de l'argent physique, un coût de fabrication qui représenterait 129 euros par an et par habitant dans la zone euro, selon la BCE. Et un coût aussi pour les sociétés qui est lié à l'exil fiscal ou au blanchiment d'argent. Il y a cette idée qu'une monnaie entièrement dématérialisée permettrait de réduire ses coûts. Qu'est-ce que vous en pensez, Ludovic Desmet ?
Je ne suis pas persuadé par la pertinence de ces arguments. Bon, en gros, on a un économiste américain qui plaide depuis une vingtaine d'années pour l'abandon du cash, qui est Kenneth Rogoff, qui défend un peu ces arguments-là, c'est-à-dire qu'on va trouver tous les arguments possibles et imaginables pour éteindre le cash. Un des principaux arguments, c'est en plus celui de la fraude, qui serait moins possible si on passe à des paiements traçables et numériques que dans un monde où le cash existe. Mais ça me paraît quand même des arguments qui sont très très peut-être pas douteux, mais en tout cas contestable. C'est-à-dire que on voit bien, encore une fois, qu'il y a un intérêt pour tout un ensemble de firmes de passer à une société numérique, parce que le cash, quel est son avantage? C'est que on a du paiement de la main à la main. Alors bien sûr, il y a de l'anonymat, mais il y a aussi une relation sociale qui se fait, et on est dans un réseau humain, on n'est pas dans un réseau commercial. C'est-à-dire qu'une fois que le cash a été produit, il peut être transféré de la main à la main éternellement. Alors que quand on passe à des paiements numériques, vous êtes forcément traçable, et donc vous pouvez dire, mais ces arguments du coût me convainquent assez peu, parce qu'une fois que le billet ou la pièce ont été produites, ils vont pouvoir se transférer sans aucun coût pendant des milliers d'opérations, des dizaines de milliers d'opérations. Alors qu'à chaque fois qu'on a un paiement numérique, on a non seulement il faut du plastique, des réseaux, il faut de l'énergie, l'énergie n'est pas gratuite, mais en plus, chaque paiement coûte. Alors que pour un billet, une fois qu'il a été produit, il peut être réutilisé, alors pas éternellement bien sûr, mais il peut être utilisé des milliers et des milliers de fois.
Alors les États-Unis ont quand même cet exemple de la fabrication des centimes qui a coûté très cher en 2016 à cause de la hausse des prix des métaux. Là encore, c'est souvent l'argument avancé, cela permettrait de coûter moins cher. Mais ce que vous dites, c'est que finalement, c'est le consommateur qui va prendre en charge ce coût des transactions numériques.
C'est ce que je pense. Et de toute façon, bon, il y a un engouement aujourd'hui sur tout ce qui est numérique et on voit très bien que c'est à la limite le... L'augmentation du coût du cash est, enfin, en tout cas pour les pièces de monnaie, est un peu due à ça. C'est-à-dire qu'il y a une tension sur tout un tas de métaux, alors plutôt des métaux rares, des cartes à puces, etc. C'est-à-dire qu'on a aussi une tension numérique, une tension sur les ressources du côté du numérique. Hein, on a tout un tas de composantes électroniques qui ont des prix qui s'envolent parce que tout le monde est en train d'essayer de passer à ce moyen de paiement.
Et par ailleurs, il serait peut-être faux d'estimer qu'on pourrait dématérialiser complètement la monnaie. On aura toujours besoin d'infrastructures physiques et puis d'énergie, comme vous le disiez.
Oui, oui. L'avantage du cash, c'est que n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, qu'il y ait de l'électricité ou pas, que vous soyez au fin fond de la brousse ou du Morvan, vous pouvez utiliser votre pièce et vos billets puisqu'ils vont être acceptés sans problème. Il faut tout un équipement, il faut toute une infrastructure pour pouvoir faire des paiements numériques. Ils sont pas hors sol, hein. Ils sont bien ancrés dans les réseaux. Dans les câbles qu'il faut tirer, dans les satellites qu'il faut faire fonctionner et dans tout un tas de composantes électroniques.
Et puis pour certains économistes, si l'argent liquide n'existe plus, la tarification des paiements électroniques pourrait augmenter. Il n'y aurait plus de concurrence finalement.
Ben voilà, oui. C'est aussi, effectivement, hein, on va beaucoup charger le cash là, depuis quelques années de tout un tas de mots. Pour venir à une société idéalement beaucoup plus fluide, transparente, etc., mais qui va, si elle advient, nous rendre captifs de géants de l'Internet ou de la téléphonie mobile qui ne promettent pas forcément d'être moins coûteux que les technologies anciennes.
Un dernier élément sur cette question du coût de la fabrication, de la création de la monnaie. Il y a la question du seigneuriage que je vais vous laisser nous expliquer. Qui permettrait, selon vous, de faire bénéficier aux sociétés de la création de monnaie? Alors, en quoi est-ce que cela consiste?
Alors, historiquement, le seigneuriage, c'est lorsque vous ameniez un métal à frapper, parce que les pièces métalliques, historiquement, ce n'est pas du métal qui circule, c'est du métal monnayé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un hôtel des monnaies qui appose son sceau sur les pièces qui vont circuler. Et donc, le seigneuriage, c'était simplement que le droit que le seigneur accaparait pour transformer votre métal brut en pièce de monnaie, en métal monnayé. Bon, donc historiquement ça vient de là, et aujourd'hui le seigneuriage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple le taux d'intérêt que vous allez acquitter pour disposer d'une somme d'argent pour pouvoir acheter une automobile ou une maison, mais ça va être aussi, il y a un autre type de seigneuriage, c'est le prix que va faire payer la banque centrale, puisque généralement ce sont les banques centrales qui approvisionnent les banques commerciales en cash, et ces banques centrales vont prélever aussi un droit. Et donc, si on passe à un modèle totalement dérégulé, géré par des grandes entreprises, forcément, les moyens de paiement ne seront pas distribués de manière gratuite, et on aura une rente, enfin en tout cas un coût pour l'utilisation à payer de ce côté-là.
Ce que vous voulez dire, Ludovic Desmet, c'est que le processus de création de monnaie par les banques centrales permet à ces mêmes banques centrales de dégager un surplus qu'elles vont ensuite pouvoir reverser aux États.
Oui, enfin la Banque de France d'ailleurs, hein, si on parle plus spécifiquement du cas français, la Banque de France imprime des billets pour une vingtaine de pays dans le monde, en Afrique et ailleurs, et c'est un marché extrêmement concurrentiel en fait. Alors qui est à la fois occupé par des entreprises privées type Auberture, il y a une ou deux entreprises britanniques, américaines, il y a des Russes aussi qui sont bien placés, et donc ils proposent leurs services. Hein. Par exemple, la Banque de France a le marché de Madagascar. À Madagascar, c'est la Banque de France qui imprime les billets. À Madagascar, il faut savoir que 90% de la population n'est pas bancarisée, et que que l'essentiel des paiements se fait en billets. Et donc, il y a un savoir-faire. D'ailleurs, la Banque de France est en train de préparer une nouvelle usine pour imprimer ces billets totalement sécurisés, etc. À côté de Clermont-Ferrand et n'a pas du tout programmé la fin du cash. En tout cas, c'est un marché aussi, c'est une source de revenus, c'est une industrie. Hein. C'est la première industrie de masse d'ailleurs, hein, le monnayage. Hein. Les pièces et les billets ont été les premiers objets créés en masse dans le monde.
Et ça pose aussi la question du coût écologique de la fabrication de la monnaie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui dépense le plus d'énergie, l'argent liquide ou les crypto-monnaies, Ludovic Desmet?
Alors, là-dessus, il y a plein de débats. On a du mal à évaluer le coût de l'énergie des crypto-monnaies, mais d'après certaines estimations, ça équivaudrait à la consommation électrique quand même d'un pays comme l'Irlande, ne serait-ce que pour contrôler l'ensemble de la circulation de ces crypto-monnaies. On n'a pas fait un bilan global dans le monde de l'utilisation énergétique de l'ensemble du système bancaire et des distributeurs automatiques de billets. Sûrement que on advient à des chiffres à peu près similaires, mais c'est-à-dire que le problème des crypto-monnaies, un des problèmes fondamentaux, il me semble, c'est que une fois que vous décentralisez totalement la production et la distribution des moyens de paiement, vous êtes obligé de passer par une myriade d'ordinateurs qui fonctionnent en continu pour faire le travail d'une banque centrale et d'une banque commerciale.
Et donc, ça consomme énormément d'énergie.
Et ça consomme énormément d'énergie.
Et alors, il y a une question importante que je voudrais soulever avec vous, Ludovic Desmet, c'est la question de l'argent physique qui représente un refuge en cas de crise. C'est un refuge qui pourrait disparaître si le cash disparaissait. C'est un argument qu'on peut entendre.
Oui, on a des scénarios pour le futur. Admettons qu'on passe tous à la monnaie décentralisée, qu'elle soit gérée d'ailleurs par des banques centrales ou par des sociétés commerciales, ou qu'elle soit totalement décentralisée et sous forme de crypto-monnaie. Mais qu'advient-il le jour où on a un virus qui bloque l'ensemble des transactions, ce qui n'est pas totalement improbable, hein, dans un scénario à la Inky Bilal, ou qu'advient-il lorsque on a un énorme problème d'alimentation électrique, tout est bloqué. Et donc il faudrait en revenir sûrement à des moyens de paiement plus archaïques. Et d'ailleurs, il me semble que c'est aussi une des explications de la coexistence, en fait. Il y a une complémentarité de tous les moyens de paiement, hein. C'est-à-dire que on n'est pas dans Victor Hugo disait ceci tuera cela, en parlant du livre et de la religion, et on a toujours l'impression que le nouveau venu va éliminer l'ancien. Mais si on parle des technologies de réseau comme les transports, la voiture n'a pas éliminé le vélo, le train n'a pas éliminé la voiture, etc. On a une coexistence de tous ces moyens de transport. Et pareil pour les moyens de paiement, c'est-à-dire que c'est très commode d'avoir du cash, pas simplement encore une fois pour des histoires d'anonymat, mais tout simplement pour des histoires de commodité. Mais on ne peut pas rejeter totalement les paiements numériques, qui sont aussi parfois bien utiles, et le chèque, le virement, etc., etc.
Et alors, ce qu'on constate, c'est que en temps de crise, ce qu'on appelle l'épargne de précaution augmente. C'est justement un argument pour les économistes néo-keynésiens pour défendre aussi la disparition du cash, parce qu'il y a cette idée que cette épargne de précaution constitue en quelque sorte un obstacle à la relance de l'économie.
Oui, alors ça, c'est effectivement avancé par Rogoff et certains néo-keynésiens qui disent que, en gros, on est dans un scénario du pire, qui avait été d'ailleurs théorisé par Keynes dans les années 30, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui s'appelle la trappe à liquidité. C'est-à-dire que qu'on a très peu connu dans l'histoire. D'ailleurs, on est dans une période, je sais plus quel hebdomadaire anglo-saxon disait que ça fait 5000 ans qu'on n'a pas connu des taux d'intérêt aussi bas, mais c'est vrai. On est dans des taux d'intérêt nuls ou voire négatifs exceptionnellement. Et donc Keynes avait déjà pointé cette possibilité dans les années 30 et donc l'argent ne rapporte rien et on a une espèce de trappe à liquidité, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'injecter de la monnaie dans l'économie, elle va tomber dans une espèce de trou sans fond et on ne sait pas où on va. Et donc pour essayer de faire reprendre la consommation, il faudrait taxer en quelque sorte le cash, puisque si vous préférez mettre des billets sous votre matelas, si on met une espèce de timbre fiscal là-dessus qui va dévaloriser votre billet, ben vous allez être amené à consommer. Mais bon, c'est...
Vous croyez à cette hypothèse ?
Je trouve que c'est un argument assez étrange, mis en avant par Rogoff en particulier, parce que déjà, bon, les taux d'intérêt négatifs sont quand même appliqués aux banques commerciales, pas aux particuliers. C'est-à-dire que vous ne perdez pas vraiment d'argent si vous retirez au distributeur automatique plutôt que de laisser votre compte auprès de la banque.
Oui, les taux d'intérêt négatifs font qu'on gagne de l'argent quand on en emprunte.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, d'un côté, ça va plutôt être bénéfique à l'emprunt. Et puis, surtout, rien ne dit que dans 5 ans ou même dans 2 ans, on soit encore dans cette situation de trappe à liquidité et que l'économie ne va pas repartir. Donc, dire que on va éliminer le cash pour relancer la consommation, ça me paraît quand même assez tiré par les cheveux et assez extrême. Dans un tout autre domaine, hein, qui était celui de la censure, mais Frank Zappa avait dit dans les années 80, quand on voulait censurer la musique aux États-Unis, la musique populaire, il avait dit c'est comme vouloir couper la tête à quelqu'un qui a des pellicules. Là, on est un peu dans cet extrême, c'est-à-dire arrêter de faire appel au cash pour simplement relancer la consommation, ça me paraît quand même assez tiré par les cheveux. Give me the cash.
Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Écoutez Give Me the Cash de Jim Hop sur France Culture et c'est la suite d'Entendez-vous l'écho. La disparition des espèces, c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui avec Ludovic Desmet. Une disparition qui pourrait mettre au chômage les faux-monnayeurs.
Léon le Stéphanois, que t'es un vrai Rubens, m'avait gravé un sang florin plus beau que le vrai. J'avais trouvé le papier en Italie et les encres en Suisse. La bécane, je m'étais mouillé de 7 briques. Je l'avais fait venir de chez Cottenburg à Leipzig. Et encore, pour plus de sécurité, je l'avais fait transiter en pièces détachées, moitié par l'Italie, moitié par le Portugal. Tu peux pas savoir.
Oh, dis donc.
Mais attends, c'est pas tout. En 8 heures au chrono, les 2 millions de florins étaient tombés, la bécane démontée, la gravure détruite et tout le papelard brûlé. Tout.
Ben alors, qu'est-ce qui a pas marché ?
Le 17 juin 45. Ça te dit rien, ça, à toi, le 17 juin 45. Eh bien, le 17 juin 45, la Banque Royale des Pays-Bas a annoncé que la coupure de 100 florins était démonétisée et retirée de la circulation, plaquée en banque. Un van de Madame la Reine Wilhelmine. Ah, je m'en rappellerai de celle-là. À cause d'elle, je me suis farci un feu de cheminée de 1500 millions.
Ils avaient le droit de faire ça?
Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun.
Les États ont tous les droits et les particuliers, aucun. Jean Gabin, bien sûr, et Bernard Blier, légendaire faux-monnayeur dans le CAF, ce rebif de Gilles Grangier, sorti en 1961. Voilà une criminalité qui pourrait disparaître, Ludovic Desmetz.
Bon, déjà, c'est un extrait extraordinaire. On aurait peut-être plus enseigné au Audiard aux étudiants. Ça fait quand même passer... pas mal de
les
choses.
Dialogues ont été écrits par Audiard.
Oui, voilà. Mm. Et en fait, il a bien cerné les choses. Et en fait, j'ai oublié votre question.
Et bien sur la criminalité, sur le faux monnayage. Est-ce qu'il n'y a plus de faux monnayage à l'ère du tout numérique?
Alors, le faux monnayage, la fraude, etc. En fait, le faux monnayage a quasiment disparu. Je lisais un papier récent de la Banque de France. Le faux monnayage, au sens traditionnel du terme à la Jean Gabin avec des faux billets, a quasiment disparu. Je crois que c'est 30 coupures sur un million qui circulent dans la zone euro, c'est-à-dire c'est rien du tout. Ça existe, mais c'est vraiment très très minime. Alors que par contre, dans le domaine de la fraude numérique, avec du phishing, avec des faux sites, avec des messages faux de votre banque qui vous demande un compte, etc. Là, c'est énorme. C'est en centaines de millions de dollars tous les ans. Donc le rapport est vraiment en faveur là pour le coup du cash.
Cette question de la cybercriminalité, elle est essentielle. En effet, il y a aussi des économistes qui estiment que c'est beaucoup plus dangereux pour une économie d'entrer dans cette ère du tout numérique, justement à cause de la cybercriminalité.
Oui, oui, on a encore une fois maintenant les casses à l'ancienne, comme dans les films des années 50, 60, avec Gabin, De Funès, etc. Il y a un film des années 60 avec Jean-Pierre Marielle qui s'appelle Faisons sauter la banque ou Faites sauter la banque, etc. Tout ça, ça paraît aussi archaïque. Maintenant, il est beaucoup plus rémunérateur d'être derrière un fauteuil et devant un ordinateur pour braquer, encore une fois, des dizaines de milliers, voire des dizaines de millions d'euros, et en faisant un hold-up informatique grâce à quelques lignes de code et une compétence de hacker.
Oui, il peut y avoir des arnaques auprès de particuliers et auprès de banques directement. Comment ça se déroulerait un braquage virtuel,
alors,
si je puis dire?
Après, ça dépend de quelle monnaie numérique on va parler, mais si Facebook, on a parlé beaucoup du piratage de Facebook, c'était sur des comptes, mais si Facebook lance sa monnaie comme c'est à l'étude actuellement et qu'une firme arrive à capter l'ensemble des données, on peut très bien imaginer des transferts frauduleux. Sur les crypto-monnaies, on a eu aussi des caches, des hold-up virtuels sur une plateforme qui s'appelait MTGOX au Japon, qui a rapporté l'équivalent de 450 millions de dollars de bitcoin qui ont disparu comme ça du jour au lendemain. On sait toujours pas qui a fait le coup. Plus récemment,
des braquages très lucratifs.
Voilà, on a beaucoup de possibilités et on a beau dire que c'est beaucoup plus traçable le numérique, etc. Dans le cas de MTGOX, c'est pas vrai. Cinq ans après, on a toujours du mal à identifier à qui a profité ce crime-là, même si le manager de la plateforme a été mis en prison au Japon. On ne sait pas a priori à qui a profité ce crime-là. Donc c'est beaucoup plus lucratif, beaucoup plus rémunérateur, et le numérique soi-disant très traçable, en fait, si on est vraiment bien outillé et assez intelligent, permet de dissimuler des dizaines de millions de dollars sur des comptes en réseau.
Alors il y a le faux monnayage, mais il y a aussi un autre type d'activité illicite qui pourrait être menacée par la disparition du cash. Tout ce qui est travail au noir pourrait être menacé par cette disparition, Ludovic Desmetz.
Alors ça, oui, c'est aussi un argument qu'on entend, effectivement. En instaurant soi-disant plus de transparence, on ferait disparaître des activités frauduleuses. Alors ça peut être une préoccupation, effectivement, pour les trésors publics. Après, théoriquement, c'est quand même plus difficile à entendre. C'est-à-dire que, je sais pas, si on reprend le cinéma et l'extrait que vous avez diffusé, là, si on regarde les films de Coppola et de Scorsese, on se rend compte que la plupart des malfaiteurs par l'italien. Éliminer la langue italienne ne ferait pas disparaître la criminalité. Je pense pas qu'éliminer le cash fera aussi disparaître le travail au noir. On trouvera d'autres solutions. Je pense que c'est prendre les fraudeurs pour des amateurs si on a des raisonnements aussi basiques que ça.
Pour vous, ça permettrait pas du tout de faire reculer le crime organisé. C'est aussi un des arguments qui a été avancé au moment où a été décidée la fin du billet de 500 euros, fin janvier.
Mais tout ça est très paradoxal, parce que justement, quand le Bitcoin est apparu, on a dit que c'était le refuge de la mafia, du crime, du terrorisme, etc. Et donc là, le numérique était soi-disant le maquis dans lequel pouvaient se cacher ces organisations-là. Donc tantôt, on accuse le cash d'être le repère des mafieux. Ensuite, c'est les crypto-monnaies. Bon, moi, il me semble que voilà, le crime existe. Et qu'il va s'adapter.
Une capacité de réinvention.
Il va s'adapter aux moyens de paiement qu'on lui proposera.
En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a supprimé en 2016 les billets de 500 et 1000 roupies, des billets qui étaient très utilisés pour lutter contre la corruption. C'était l'argument avancé. Quel bilan est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, Ludovic Desmet?
Alors là, c'est, je pense, un contre-exemple pour pas mal de... Encore une fois, on est dans l'expérimentation, c'est ce qu'on disait au début, pour pas mal d'apprentis réformateurs, c'est-à-dire que, d'après ce que j'en sais, donc l'Inde a essayé de retirer, justement avec l'argument de la lutte contre la fraude, certaines coupures qui équivalaient à peu près à 15 euros ici, mais a imposé ça à la Banque centrale, qui n'a pas réussi à suivre le rythme. Et quand on a une population d'un milliard et quelques d'habitants, c'est beaucoup plus difficile d'approvisionner l'ensemble de la population, d'autant plus qu'elle est rurale pour une grande partie.
Oui, la décision a été très subite.
Voilà, elle a été... Pour l'objectif, c'était compréhensible. C'est-à-dire que si on avait annoncé 6 mois à l'avance qu'on allait retirer certaines coupures, il y aurait pu avoir des prévisions de la part des fraudeurs. Là, l'idée, c'était d'attaquer par surprise. Mais la Banque centrale a été aussi attaquée par surprise, n'a pas eu le temps d'imprimer les nouveaux billets, et ce qui fait qu'on a eu une dépression de l'économie indienne, qui manquait de moyens de paiement, qui a été totalement asséchée. Et encore une fois, on est dans une économie où la grande majorité, plus de 2/3 des transactions, sont effectué en cash, hein, puisque la majorité de la population indienne est extrêmement démunie et n'est pas bancarisée et donc passe par des petites et des moyennes coupures.
Ça rejoint l'idée qu'on développait tout à l'heure, qu'on ne peut pas forcer une population à adopter des techniques qu'elle ne souhaite pas adopter. Alors, il y a un autre argument qui est défendu par les partisans du cash, c'est le risque d'une perte de liberté, car tous les paiements, sans exception, seraient tracés. Est-ce que, selon vous, il y a une véritable menace sur la vie privé si jamais cette société zéro cash devait advenir?
Oui. En plus, on en a peu parlé jusqu'à présent, mais tous ces débats s'enracinent aussi dans le contexte post-2008. C'est-à-dire que en 2008, avec le coup d'envoi public, c'est la faillite de Lehman Brothers, on a eu une extrême défiance par rapport à l'ensemble du système bancaire, une espèce de collusion entre les banques centrales, les banques commerciales, le sauvetage un peu en catastrophe de certains intermédiaires financiers. Et donc le public... D'ailleurs, on se rend compte, dans la zone euro et un peu partout dans les pays occidentaux, que l'usage du cash a augmenté à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que cette défiance par rapport aux banques commerciales s'est manifestée en disant, finalement, ma confiance dans mon intermédiaire financier a été touchée et je vais augmenter mes paiements en liquide, parce que là, au moins, je sais que, encore une fois que ça a été émis, je peux m'en servir dans les situations, et en cas de panique bancaire, Cantona avait incité d'ailleurs tout le monde à retirer un maximum de cash pour faire effondrer le système financier, ce qui n'a pas eu lieu, mais on a eu, à une échelle très réduite, cette espèce de retour vers des moyens de paiement sonnants et trébuchants qui inspiraient confiance, malgré tout. Parce que on a aussi, sur ces espèces, on a tout un tas de symboles, une iconographie, qui nous font appartenir à une communauté de paiement. Alors bon, en Europe, cette communauté de paiement, elle est assez lâche, pas sur les pièces de monnaie, parce qu'on a des faces nationales, mais sur les billets, bon, on a des ponts, des arches, qui sont assez abstraits, mais...
Mais ça crée quand même un sentiment d'appartenance nationale.
Voilà, et puis, je trouve que quand on voyage, un des agréments du voyage, c'est de voir les coupures auxquelles on peut être confronté. Au Cambodge, vous avez les temples d'Angkor, quand vous allez en Amérique du Sud, vous avez un autre type d'iconographie, quand vous allez aux États-Unis, vous avez les présidents américains. On a un rapport à l'histoire, on a... une histoire commune. Hein. Bon, encore une fois, l'euro a 20 ans, donc est un peu jeune pour avoir construit ces attributs-là, et on a voulu gommer justement les attributs nationaux, mais on a quand même un système de codes qui font sens et qui font lien, comme pour reprendre une expression de Jean-Michel Servet que vous interviewiez hier, il y a un lien par le cash. Un lien qui est, encore une fois, construit sur un terreau culturel commun, qui n'existe plus avec les monnaies numériques. Le lien, il est entre moi et ma banque, ou entre moi et mon fournisseur de téléphonie mobile, mais il n'est pas entre moi et celui que je vais payer.
Mais est-ce que il faut nécessairement voir un recul de l'État dans une société sans cash, comme le pensent un certain nombre d'économistes néolibéraux? Est-ce que l'État pourrait pas justement revenir et rejouer un rôle plus important dans le numérique, ne pas laisser la place seulement au privé dans ce domaine?
Oui, c'est effectivement une des possibilités. Hein. Tout est ouvert aujourd'hui. On est vraiment dans une phase de transition et de rupture, et rien n'empêcherait effectivement les banques centrales de reprendre le contrôle plus entier de la masse monétaire en ayant un contact direct avec les usagers, parce qu'aujourd'hui le contact se fait via les banques commerciales. Mais une des possibilités, d'ailleurs c'est ce sur quoi travaille la Banque de Suède, c'est d'avoir une couronne suédoise qui permettrait d'avoir, en gros, hein, si on résume, des lignes d'écriture entre chaque particulier à la banque centrale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est l'or, il est l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures, oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Oh, ça alors?
Regardez sous le lit.
Voilà, vous avez bien sûr reconnu Louis de Funès et Yves Montand dans La folie des grandeurs de Gérard Houry. Peu de scènes illustrent mieux que celle-ci cette passion pour le tintement des pièces d'or. Mais au-delà du cupide Don Salluste, quelle est la réalité, selon vous, Ludovic Desmet, de l'attachement populaire aux pièces et aux billets?
C'est un peu ce qu'on disait juste avant. Je pense qu'il y a vraiment, on partage des signes communs et toute une iconographie. Encore une fois, ça parle. Et quand on voit voir des musées archéologiques, etc., on voit que c'était très important. Si on regarde la civilisation gauloise, vous avez des pièces alors qui vont avoir des profils de certains dirigeants, etc. Et puis si on communiquait avec la Rome antique, on avait des profils d'empereurs, on avait aussi des figures guerrières, etc. Il y a un message. Et d'ailleurs, ce message a été très important au XIXe siècle quand on a une construction des États-nations en Europe ou ailleurs. C'est-à-dire qu'on faisait aussi circuler tout un tas de figures, alors plus ou moins mythiques, plus ou moins abstraites. Britannia, par exemple, pour les Britanniques, qui n'ont pas souhaité passer à l'euro, y compris parce qu'ils pensaient que leur monnaie, la livre sterling, était trop ancienne pour pouvoir. Alors, il y a tout un tas de questions de politique monétaire, mais il y a aussi un attachement commun et une singularité.
Mais les Allemands sont très attachés à l'argent liquide, et eux, pour autant, ils sont passés à l'euro, mais il y a un fort attachement en Allemagne, par exemple.
Alors déjà, il y a eu un deal, c'est-à-dire que on passe du mark, qui est une monnaie forte, à l'euro, qui doit être fort, et cet euro doit être anti-inflationniste. Donc on a un biais anti-inflationniste de la BCE, de ce côté-là, et aussi, effectivement, on a un attachement qui est peut-être dû, d'ailleurs, à l'hyperinflation de 23, on n'en sait rien, et sûrement à d'autres éléments en Allemagne, effectivement, par rapport au cash, mais aussi on a un élément juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond. En Allemagne, vous pouvez très bien acheter une automobile en liquide. Mmh. Alors qu'en France, c'est pas possible, hein, au-delà de 1000 euros, vous ne pouvez pas payer en liquide. Mais ça, c'est aussi un des legs de l'histoire, c'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour restreindre le marché au noir, on a voulu restreindre les paiements en liquide et plutôt encourager l'usage du chèque, qui était justement plus traçable.
Et est-ce que cet attachement à l'argent liquide est aussi lié à une crainte que peuvent avoir certaines catégories de la population envers ce tout numérique? Il y a un certain nombre de gens qui seraient exclus de ce système, Ludovic Desmet.
Effectivement, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est ce que les technophiles oublient souvent. C'est que déjà il y a un élément pédagogique, je trouve, dans le cas, c'est-à-dire qu'on peut apprendre assez facilement les codes, et encore une fois, on plafonne ses dépenses si on ne peut pas dépasser la somme qui vous est octroyée. Mais en plus, on se rend compte d'ailleurs en Suède aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui représente des catégories défavorisées, mais aussi des catégories de population âgées qui ne sont pas du tout accoutumées à tout ce qui est technique informatique, etc.
Il y a carrément une rébellion en faveur du liquide qui s'organise en Suède.
Voilà, et on risque de voir ce genre de mouvement se diffuser, puisque on met de côté tout un tas de la population. Et encore une fois, c'est une espèce de techno-utopie réservée à 10-15 pays riches qui pourraient éventuellement passer à cette étape-là. Mais il me semble que c'est très prématuré. D'ailleurs, si on lit vraiment les interviews et la communication de la Banque de France dans ce domaine-là, il n'y a pas de volonté à très court terme de passer au tout numérique, que ce soit du côté des banques centrales ou de manière étatique.
Alors il y a tout de même ce rapport CAP22 qui avait été lancé par le Premier ministre et qui préconise justement d'accélérer le mouvement vers une société sans cash et qui le préconise d'ici à 2022. C'est quand même assez proche.
Bon, alors on a du mal un peu à identifier quel est le statut de ce rapport sur l'action publique. Bon, là, l'argument qui était mis en avant, c'était de lutter, encore une fois, contre le blanchiment et la fraude. On a aussi certains pays de la zone euro qui sont en train d'éliminer les petites pièces, les toutes petites pièces de 1 et 2 centimes, comme en Belgique, etc.
Mais vous n'avez pas le sentiment qu'en France, il y a une volonté gouvernementale d'aller vers plus de numérique sur la question des paiements?
Alors, si, ça c'est programmé. Mais encore une fois, si la Banque de France est en train d'investir des sommes énormes pour moderniser son système de production des billets, encore une fois dans un régime international très concurrentiel, avec une sécurisation de ses billets, etc. Et encore une fois, c'est une part de marché non négligeable pour la Banque de France. En tout cas, du côté de la Banque de France, je pense pas qu'il y ait de crainte à avoir de ce côté-là à court terme. Maintenant, au niveau politique, rien n'est sûr, et on pourrait, si les technophiles montent à l'assaut du pouvoir politique, on peut peut-être avoir une espèce de coup de force, mais avec des réactions, encore une fois, de protection de certaines catégories de population, qui seraient d'ailleurs assez importantes à mon avis, et puis avec des risques aussi d'échec à l'indienne. Si on essaie de forcer trop le mouvement.
Vous parlez des inconvénients pour les personnes âgées qui peuvent avoir un accès plus difficile aux technologies. La dématérialisation de la monnaie pourrait aussi avoir des conséquences, pour le coup, carrément dramatiques pour les SDF ou pour les migrants. Et ce qu'on voit, c'est que la monnaie dématérialisée essaye déjà de s'adapter à ces critiques. Il y a toutes sortes d'initiatives qui naissent. Expliquez-nous cela, Ludovic Desmet.
Alors oui, un de vos assistants m'a envoyé un extrait d'une rubrique sur une expérimentation en Angleterre, sur une espèce d'insertion numérique des SDF pour connaître l'histoire du SDF et pour voir récompenser les SDF qui auraient le profil le plus intéressant. Enfin, moi, ça me semble quand même assez aberrant de mettre ça en avant, puisque on va essayer d'insérer numériquement des gens qu'on n'arrive pas à insérer socialement, et d'avoir une espèce de palmarès des SDF les plus méritants. Enfin bon.
On en est à permettre effectivement qu'ils aient un code QR qui leur permettrait de récupérer de l'argent là où on a de moins en moins effectivement de la monnaie sur nous.
Voilà, mais ça commence à ressembler un peu à une société à la Orwell ou à ce genre de contre-utopie.
On arrive à la fin de cette émission, Ludovic Desmet. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette question d'une société sans cash? Est-ce que vous pensez qu'on va assister davantage à une concordance, une vie en même temps de la monnaie et de la monnaie numérique et de la monnaie physique?
Oui, il me semble, maintenant, encore une fois, toutes les hypothèses sont ouvertes. C'est un équilibre quand même assez fragile entre la volonté des autorités. D'ailleurs, la volonté des autorités politiques et des autorités monétaires ne convergent pas forcément. Des usagers, encore une fois, des grandes firmes de la Silicon Valley, aussi des banques commerciales. Mais il me semble que la coexistence pacifique, en fait, il ne faut pas forcément voir ça en termes de concurrence, mais la coexistence pacifique est totalement envisageable et qu'on va continuer à avoir des billets et des pièces teintées dans nos poches.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de la réforme britannique des allocations sociales.
Absolument, décidée par le gouvernement Cameron en avril 2013 et mise en œuvre progressivement depuis. Cette réforme des allocations sociales, appelée Universal Credit, n'a pourtant rien d'universel. Comme l'explique un article d'Amandine Alexandre sur Mediapart, cette fusion des aides sociales a conduit au contraire à renforcer le contrôle et la précarité des allocataires, causant pour une grande partie d'entre eux d'importantes pertes financières. D'ailleurs, les mots ont leur importance. On se rappelle ainsi comment le président Macron avait en France affublé son projet de fusion des aides sociales du nom de revenu universel d'activité, opérant une capture du langage et vidant les termes de leur signification profonde pour légitimer son projet. Si la réforme des conservateurs anglais usurpe également le terme d'universel qu'elle ne recoupe aucunement, au moins le terme de crédit nous éclaircit-il la place nouvelle des bénéficiaires de ces aides qui deviennent débiteurs de l'État avec ce que cela comprend de contrepartie et d'obligations consenties.
Pourtant, la réforme était, à sa présentation, saluée à droite comme à gauche.
Absolument. L'objectif affiché du Universal Credit était d'encourager les bénéficiaires de l'aide sociale à travailler en faisant en sorte que nul ne perde de l'argent en reprenant un emploi. Le problème, c'est que rapidement, le système s'est avéré être un désastre. Lancé en 2013, le crédit universel devait être progressivement déployé pour atteindre tous ses bénéficiaires à l'horizon 2017. Début 2018, seules 700 000 personnes touchaient effectivement le crédit universel, soit à peine 11% de la population y ayant droit. L'objectif de déploiement a finalement été repoussé à l'année 2023. Une mise en œuvre tellement désastreuse que l'observateur de l'ONU en charge de l'évaluation de ce dispositif n'a pas hésité à écrire que le crédit universel était en train de tomber dans le discrédit. Il faut dire qu'au-delà de son objectif de réduction de la pauvreté, ce nouveau dispositif cherchait aussi et peut-être surtout à réaliser des économies. Le lancement du programme coïncidant avec le pic de politique d'austérité outre-Manche.
L'article de Mediapart met ainsi en lumière la complexité des démarches administratif pour bénéficier du crédit universel.
Oui, l'auteur de l'article est ainsi allé à la rencontre de plusieurs bénéficiaires des aides sociales outre-Manche qui ont vu se multiplier les obstacles depuis la mise en œuvre du crédit universel. La première difficulté survient ainsi au moment de remplir les formulaires en ligne et uniquement en ligne, des procédures intégralement basculées sur Internet afin de réduire les frais de personnel et d'améliorer, nous dit-on, l'efficacité de traitement. En réalité, des formalités qui peuvent prendre jusqu'à 3 heures sans possibilité de s'adresser à un conseiller. À la moindre erreur, retour à la case départ. Tant pis pour ceux qui, comme Eila, n'ont pas les moyens de se payer un abonnement Internet.
Mais une fois cette étape franchie, les demandeurs de prestations sociales doivent encore attendre un délai de 6 semaines avant de savoir s'ils sont éligibles au crédit universel.
Exactement, 6 longues semaines qui s'apparentent à une forme de calvaire financier pour des travailleurs pauvres qui doivent passer cette période sans le moindre crédit ni la moindre allocation. En témoigne aujourd'hui l'explosion de la demande dans les banques alimentaires, jusqu'à 50% de plus dans certaines zones où le crédit a été expérimenté. Mais au-delà des conséquences funestes de sa mise en œuvre cynique, ce sont surtout les objectifs de ce dispositif qui nous interrogent. Il semble en effet étonnant de promouvoir le retour à l'emploi dans un pays qui ne compte que 4% de chômeurs. Étrange surtout de vouloir compenser une précarité elle-même organisée par un modèle économique fondé sur la libéralisation du marché du travail et la multiplication des emplois courts et précaires.
On se quitte avec Cash du Quatuor de surf rock française The Irradiates. Merci beaucoup Ludovic Desmet d'avoir dessiné avec nous les contours d'une société sans argent liquide. Demain, guerre des devises, la menace fantôme, c'est notre sujet en compagnie d'Agnès Benassiquéré et de Dominique Plion. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.